veut nous taire, mesdames et messieurs, ladies and gentlemen. Guten Abend, bonsoir, good evening. Piquet, do you feel good? Comment ça va?
Et bonsoir à toi qui écoute la plus rebelle des radios, aka Radio Canu. Eh bien, il est 22h et avant nous, c'était les bandes continues, ce n'était pas Dead Moon Night et maintenant, c'est l'heure de la causerie.
Dans la causerie. C'est quoi cette voix?
Pourquoi tu parles comme ça?
Je fais quoi que je veux, ok? Alors, nous avons à la technique, la tonitruante, la formidable, que dis-je, l'exceptionnelle Clara.
Bonsoir.
Je suis fatigué.
Oui, ça s'entend, oui.
Ah oui. Merci, Joris, quand même. Ça se sent, hein. Voilà.
Et nous avons aussi, que dis-je, le formidable, l'exceptionnel. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? En tout cas, Fab est là aussi.
Bonsoir. Et donc, pour l'ouverture de cette émission, nous avons un clone de Laurent Ruquier. Bonsoir.
Jean-Yves. Bonsoir. Moi aussi, je veux finir sur une grande radio. Mince. Merde.
J'aurais essayé.
C'est ça.
J'aurais tout tenté pour
mais
y
ouais,
être.
Moi, je sais bien. J'ai pas ma place sur France Q, mais je veux bien essayer une autre. Alors, donc, la causerie. N'hésitez pas à nous joindre parce que je crois que.
Parce qu'on aime quand on nous joint.
Tout à fait. Voilà. On se joint les mains et les bras et tout ça. Bref, donc, parce que les commentaires normalement ne sont pas encore activés sur le blog, devraient pas tarder normalement, en tout cas sur le blog de la causerie. Mais si vous voulez nous joindre en attendant, c'est toujours lacauseriecanu@gmail.com.
Et même quand tu auras les commentaires, hein,
oui,
on répond aux deux.
Bien évidemment. Donc lacauseriecanu@gmail.com. Vous avez évidemment le blog sur lequel retrouver toutes les émissions précédentes, les 438e précédentes. C'est à l'adresse suivante, blogs, avec un S, blogs.radiocanu.org/lacauserie.
Et on a dû le dire 438 fois.
Oui, mais c'est pas grave. On a toujours l'espoir qu'une personne supplémentaire, nouvelle, vienne nous écouter.
Ah mince,
nous
sont les blogs.
Mais oui, attends, je comprends le désarroi de cette personne qui se dit comment je fais pour écouter tout ce qui a été fait avant? Et ben voilà, on t'a tout dit. Et sinon, dans votre petit moteur de recherche, quel qu'il soit, vous tapez La Causerie Radio Canu et normalement, vous devriez tomber sur nous.
Et si vous ajoutez podcast, vous devriez tomber sur les podcasts.
Wow.
Ça, c'est top.
Ça,
hein.
C'est... Non, mais ça, c'est fou.
Non, hein. Mais c'est la technologie. C'est un truc de
c'est
ouf.
Complètement
quoi.
Dingue. voilà. Et évidemment, c'est ce que tu disais sur les différentes plateformes de musique. Vous retrouvez autant La Causerie que Radio Canu aussi. J'ai découvert ça.
Oui, tout à fait.
Sur des choses qui te proposent de l'écoute de musique. Et sinon, on est aussi sur un réseau socio-commercial. Pareil, vous tapez La Causerie Radio Canu sur le réseau social d'un certain Marc Z, et vous devriez nous trouver aussi, mais encore une fois, favorisez vraiment les échanges par mail et le site internet directement de la causerie, parce que personne se fait de
pognon. On passe à nous voir d'ailleurs, on est là tous les dimanches à 22h.
Évidemment, si on est dans un bon jour, on vous recevra.
Bon, on vous préviendra.
Mais non, c'est pas vrai, on est sympathique. C'est Fab qui commence et tu vas nous parler d'un rapport qui a été rendu il y a très peu de temps. temps-là.
Bah, il y a quelques années de ça, on avait reçu SOS Homophobie dans la causerie, qui était venu parler du rapport qu'ils font chaque année, en fait. Ouais. Et donc, cette année, bah, SOS Homophobie rend de nouveau son rapport sur les violences envers les personnes LGBT+, en France. Et on est malheureusement habitué à ce que bah, ces violences restent élevées. Voilà, donc c'est un peu le souci. On va rappeler comment il est construit le rapport, parce que ça c'est un peu important. Donc en fait, il centralise tous les actes de lesbophobie, homophobie, biphobie, transphobie et intersexophobie qui lui sont rapportés au niveau national par le biais de témoignages. Donc c'est un rapport qui est construit par le volontariat, vu que c'est des remontées, et on sait donc bah, qu'il est minoré de fait, c'est-à-dire que...
Oui, c'est-à-dire voilà. Que c'est des individus à qui il est arrivé des choses, qui contactent oui. directement l'association, donc...
Ou des membres de l'association qui ont
eu vent
de quelque chose et qui enquêtent sur ce qui s'est passé, mais effectivement, donc c'est donc en fait du volontariat, et donc tout le monde, effectivement, ne fera pas la démarche de remonter bah, les cas qu'il a pu rencontrer à titre personnel, ou un ami, une amie a pu rencontrer. Donc le rapport de 2022, bah, en fait, il a démontré que par rapport à 2021, le nombre de remontées est inférieur à l'année 2022, ce qui a fait dire à une certaine Elisabeth Lévy, qui est une grande chroniqueuse d'extrême droite, que finalement ça allait pas si mal en France.
Ah ouais,
bon,
ça va quoi.
Alors en fait, il faut, c'est parce que on a 1515 actes LGBTI-phobes qui ont été remontés en baisse par rapport à 2021, où il y en avait 1815. Sauf que eh ben en fait, contrairement à Elisabeth Lévy, il faut pas se réjouir de ça, parce que comme l'association le souligne elle-même dans la page 2 de son rapport, donc elle a dû s'arrêter à la page 1.
Oui, elle a lu le résumé.
Ce chiffre en fait n'est pas du tout significatif d'une réelle baisse, mais plus en fait de remontées moindres. Ça veut pas dire la même chose. C'est pas parce que vous avez une moindre remontée que vous avez une baisse
oui,
de
fait. Oui, que dans les faits, il y en a moins.
Ça dépend bah, le contexte. Bah, je vais y revenir. Donc la preuve d'ailleurs en étant que le chiffre du ministère public, donc c'est, je vous rappelle, c'est police et justice, hein, le ministère public. Sont eux en forte hausse de 28% d'actes anti-LGBT en un an. Donc c'est bien la preuve que ça n'est pas en baisse et qu'il n'y a pas de quoi se réjouir. Et en fait, on sait que le nombre officiel de discriminations est de toute façon largement sous-estimé, globalement, hein, que ce soit par SOS Homophobie ou par le ministère public, car comme pour les violences faites aux femmes ou aux enfants, les victimes, elles peinent à parler ou alors les structures ne sont pas adaptées pour bah, les entendre, tout simplement,
oui,
et prendre les plaintes.
Mais c'est la logique qu'on peut avoir, effectivement, tu le disais, sur les violences faites aux femmes, sur les actes de racisme, etc. C'est-à-dire que,
oui, tu
en fait, toutes les remontées qu'on peut avoir, je pense qu'il faut quand même toujours se dire qu'il y en a certainement plus...
Ouais.
Parce qu'encore une fois, bah, tout le monde ne fait pas la démarche de, etc., etc.
J'ai entendu à la radio, je crois que c'était sur France Info, une sociologue qui disait qu'on peut estimer que faire x10, c'est à peu près juste. C'est-à-dire entre le chiffre qu'on a de remontée réelle et le chiffre qu'il y a en réalité, faire un x10 serait pour elle pas aberrant, en fait. Voilà. Donc en fait, bah, c'est parce que souvent, il y a un manque d'écoute, de toute façon, des institutions qui fait que, bah, on a du mal à remonter ce genre de violence. Donc voilà. Donc la baisse du nombre de remontées de SOS Homophobie, elle est sans doute en fait plus liée aux problématiques en lien avec la pandémie en réalité. Oui, parce que alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, on parle maintenant comme si c'était rien passé ces deux dernières années, genre on n'a pas été confinés, les services publics étaient tous ouverts, il n'y a pas de, bah non, avec les confinements,
il y a pas d'isolement,
voilà, l'isolement, les services publics étaient fermés, tout ce qui est passé en fait en télé
travail
ou en télé déclaration au lieu de la déclaration physique, enfin tout ça en fait, bah, ça fait qu'il y a une baisse automatique qui s'est faite, mais elle s'est faite parce que physiquement on ne pouvait pas faire les choses, tout simplement. Et puis il y a aussi le fait que les lieux communautaires, c'est-à-dire les endroits où en fait les personnes LGBT peuvent venir souffler, que ce soit des bars, que ce soit des associations, que ce soit des choses comme ça, bah, ils étaient fermés. Oui. Donc en fait, et bah, des fois, quand on arrivait dans ces lieux-là, on avait plus de facilité à parler et à dire ouais, voilà ce qui m'est arrivé, parce qu'on savait qu'en face de nous, il y avait des gens qui pouvaient nous entendre, nous écouter, et aller au-delà de nous entendre, nous aider. Sauf que bah, comme ces lieux étaient fermés et que l'information y passe majoritairement, et bah, en fait, bah, ça a limité le nombre de remontées. De la même façon, depuis 2 ans, SOS Homophobie ne peut plus faire d'intervention en milieu scolaire, ni d'autres associations d'ailleurs. Or, on sait que c'est à la suite de ces... interventions en milieu scolaire que régulièrement des choses remontent. Parce qu'une fois que les élèves sont sensibilisés et ils connaissent certaines associations, ils peuvent parler de leur cas. Sauf que ça fait 2 ans que les écoles, eh ben, on peut pas y rentrer pour autre chose que d'aller étudier pour le grand bonheur de la nation. Donc en fait, bah, toutes ces choses-là en fait, font que bah, ça a diminué. Mais ça veut, c'est bien en fait un problème plutôt structurel qu'un problème en réalité de, oui. aucune bonne nouvelle qui oui, serait la ça. Baisse réelle du nombre de cas.
Oui, parce que là, tu peux peut-être rappeler le chiffre, c'est quoi ? Combien
1515 remonté 15... à la place de 1815 ouais. L'année dernière.
C'est là que tu dis oui, le x10, c'est je pense un minimum parce que
ouais,
ça
ouais,
voudrait dire entre 15 000 et 18 000
oui, ça.
Sur 70 millions à peu près quasiment d'habitants, 365 jours par an, j'ai envie de te dire.
Ouais, on y est largement. Hein,
c'est... Je pense voilà. qu'on y est large, ouais.
Donc, et c'est aussi parce qu'en fait, le confinement, il a aussi déplacé les cas de discrimination. Parce qu'en fait, ils sont passés au sein des familles ou des colocations. Et on sait, en fait, bah, qu'il est plus difficile de dénoncer ses proches. Et oui, c'est humain, c'est comme ça. Et voilà, et on sait que quand c'est dans la famille, notamment, bah, c'est pas si simple. Hein.
Bah, c'est peut-être justement cette sidération qui est souvent la suite d'une agression. Mmh. Effectivement, la sidération est certainement beaucoup plus importante quand c'est quelqu'un qui est censé, entre guillemets, vous aimer, qui ouais. vous insulte, vous frappe ou bien
et,
pire encore.
Et puis, elle a peur aussi d'être mis dehors.
Oui,
c'est-à-dire
oui,
qu'il
ne
faut
oui.
pas oublier
oui.
cette peur-là. C'est-à-dire oui. que quand vous êtes un jeune et que vous habitez chez vos parents, bah, en fait, dénoncer vos parents, c'est le risque de se retrouver ah, bah, mis à la porte et tout le monde n'a pas la possibilité d'avoir un point de chute. Et bon, alors, il y a des très bonnes associations qui font, comme Rimbaud ou comme Le Refuge, qui font le boulot de pouvoir recueillir les gens qui sont mis dehors. Mais qu'on le veuille ou non, c'est pas une décision ah, bah, facile
oui,
ou simple
oui,
à faire et que ce n'est pas une solution non plus extrêmement simple. Ni, voilà. Donc, c'est pour ça qu'il faut, il faut comprendre pourquoi, en fait, bah, on parle moins, en fait. Et ça, c'est ce que le rapport souligne. Donc, je reviens à cette chroniqueuse et je me dis que finalement, elle aurait mieux fait de fermer sa gueule. Voilà. Donc,
Souvent. Et les médias sur lesquels elle s'exprime.
Voilà. Ah, bon. Alors, bon, donc si les témoignages sont en fait moins nombreux, ils sont par contre plus violents dans le fond de ce qui est rapporté. Et ça, par contre, c'est ce que souligne le rapport, mais alors avec deux traits rouges, hein, en disant, en fait, le problème, c'est que non seulement on a peut-être moins d'actes qui sont remontés, mais ils sont d'une violence largement supérieure à ce qu'on connaissait jusqu'à maintenant. Et en fait, on est loin d'une baisse de la violence, ce serait même plutôt une montée des violences en réalité. Donc les témoignages, ils rapportent des agressions, qui sont plus violentes, plus récurrentes, et qui laissent en fait les victimes profondément bouleversées dans leur relation à l'autre et à elles-mêmes. C'est-à-dire que, je vais donner un exemple hein, que je n'ai pas noté, mais qui est un petit peu en filigrane du rapport. Par exemple, s'il y a une différence entre se faire traiter une fois, je passe dans un couloir, parce que ça me concerne, donc je peux le dire moi, je passe dans un couloir, il y a un mec qui dit « Ah, quel sale pédé !» Bon, ça va, généralement, vous êtes énervé, vous rentrez chez vous, ça va. Le problème, c'est quand il dit « Eh, sale pédé !» qui vous tabasse, et puis que derrière, vous avez peur de le recroiser 2 jours après, c'est pas la même chose. Mais en fait, c'est ce qu'ils disent, c'est que la montée qu'il y a, c'est ça. C'est-à-dire qu'on passe d'une petite insulte qui peut arriver, qui est déjà inadmissible, à maintenant de la violence systématique. C'est-à-dire, il a peur d'une violence systématique. Voilà. Donc, je vais un petit peu balayer hein, où ça se trouve. Donc 18% de ces violences, elles ont de cette haine, parce qu'on va dire quand même, c'est en ligne, sur Internet. 15% c'est dans la famille. 11% c'est en lien avec des commerces ou des services. Alors là, je vais donner un exemple hein, que si vous êtes hétéro, vous n'avez généralement pas entendu, mais ça arrive parfois quand vous voulez louer quelque part et puis que vous dites je viendrai avec mon compagnon, puis que d'un seul coup, ah mince, on est complet. Enfin voilà, vous voyez, c'est des choses qui se produisent et ça se produit aussi pour les personnes qui ne sont pas blanches, ça se produit aussi pour plein de choses, mais ça là, ça fait partie des violences quotidiennes, on va dire, enfin voilà, et fréquentes et désagréables. 11% c'est au travail. 11% c'est avec le voisinage, donc ça aussi c'est assez nouveau, c'est ce que souligne le rapport, c'est que le voisinage existait déjà, mais sauf qu'il est en augmentation, et donc le problème c'est que le voisinage, vous en changez pas tous les jours, hein. Donc quand ça commence, en général, ça va pas en diminuant. On a aussi 10% qui ont lieu dans des lieux publics, c'est-à-dire dans la rue, vous êtes à la terrasse d'un café, quelque chose comme ça. 5% quand même en milieu scolaire, ce qui est quand même assez élevé quand on y réfléchit, et 3% en lien direct avec la police et la justice. Donc là, c'est un petit peu plus problématique. Je vous rappelle que théoriquement, ils sont censés protéger et juger tous les citoyens. Voilà. Donc, il y a comme un problème. Et 3% en lien avec ce qui est exprimé dans les médias. Et je reviens à cette chroniqueuse que j'ai citée au début. Vous voyez, c'est un peu ce... Voilà. Ça a l'air de rien, parce que comme ça, quand on dit c'est des pourcentages, en fait, le problème qu'a SOS Homophobie, et ils le disent, c'est qu'en fait, ça stagne. Ouais. C'est-à-dire que contrairement à ce qu'on croit, ça devrait baisser et tendre à baisser. En fait, ça ne baisse pas, ça stagne. Et ça, c'est vraiment une grosse problématique du moment. Et d'ailleurs, ce que montre le rapport, c'est aussi que contrairement à une idée reçue, c'est bien les plus jeunes, en fait, qui se retrouvent le plus impactés par ces violences. Parce qu'on a tendance à dire, oh, la nouvelle génération, elle est super open, il n'y a pas de problème. Mais en fait, c'est pas vrai. Et en fait, en réalité, ben, c'est les plus jeunes qui subissent le plus de violences LGBT-phobes en France. Voilà.
Mais c'est toute cette problématique aussi de dire, mais comme quand on dit la jeunesse en même le Front National, non, il y a une partie de la jeunesse qui vote Front National, et la jeunesse LGBT-friendly, une partie de la jeunesse est LGBT-friendly, une partie de la jeunesse est réactionnaire, en fait. Il n'y a pas de grands ensembles qui existent.
Ouais, il ne faut pas oublier le double effet, c'est-à-dire que la jeunesse, elle est soumise donc déjà aux gens qui les entourent, du même âge, aussi aux adultes, par la famille, et aussi aux adultes, par l'éducation nationale. Donc en fait, en réalité, elle est triplement impactée. Vous voyez, c'est pour ça aussi qu'elle est, du coup, la plus impactée, c'est logique. Une fois que vous avez quitté l'école, vous n'êtes plus trop sous le truc, voilà, c'est pas la même chose. Oui. Donc en fait, c'est ce que le rapport, il prend un exemple, hein, c'est pour les personnes se définissant comme bisexuelles et qui font leur coming out. Alors je rappelle, le coming out, c'est le fait d'annoncer, de dire, alors j'aime pas le mot révéler parce que c'est assez bizarre, mais en fait d'informer les gens que ben voilà, vous n'êtes pas, hétéro. Voilà. Et en fait, bah, le rapport, il écrit, hein, comme c'est écrit dedans, hein, c'est le constat alarmant de l'année 2021, parce que je rappelle que le rapport 2022 porte sur l'année 2021. La proportion de victimes mineures de biphobie atteint presque 30% des cas, alors qu'elle ne s'élève qu'à 10% sur l'ensemble des LGBTI phobies recensées. Mmh. C'est-à-dire que, vous savez, ce côté, c'est devenu cool d'être bi, alors c'est moi qui le dis, parce qu'on entend beaucoup ça, en fait, dans les médias. Même ça, c'est une violence, en fait. Mmh. Parce que c'est pas cool, vous choisissez pas, donc c'est pas, ce serait cool si vous pouviez choisir. Ah, c'est cool de s'habiller en vert. Oui, bon, bah voilà, là on peut choisir. En fait, bisexuel, on l'est ou on l'est pas. Et il n'y a pas de truc cool. C'est un fait. Voilà. Donc, mais, eh ben, vous subissez plus quand vous êtes jeune une pression, ce qui est démontré. Et en fait, le rapport dit des ados expriment notamment leur angoisse vis-à-vis du coming out. Ils craignent d'être incompris, voire frappés et jetés à la rue par leurs parents. Donc, c'est les proches et les parents. Et donc, c'est assez. C'est compliqué. Donc on pouvait penser que la société était plus tolérante. Et ben en fait, il s'avère que c'est clairement pas le cas et que toute nouvelle crise finalement fait augmenter les violences contre les femmes et les minorités. C'est quelque chose qui est connu et qui se constate sur les 2020 et 2021.
Oui, c'est ça. C'est quasi à chaque crise, on a des mouvements comme ça où effectivement, enfin c'est ce que tu dis, ça va être les femmes, les minorités sexuelles, de genre ou de couleur d'épiderme, dirons-nous, ouais. qui seront les premières à prendre sur la gueule, en fait.
C'est ça. Donc il y a aussi une autre catégorie de personnes qui dans le rapport sont soulignées pour être fortement exposées à la violence, c'est parce que c'est aussi le but du rapport, c'est la violence subie par les personnes trans et qui est clairement en hausse aujourd'hui, car même si le nombre de témoignages est en baisse, globalement, celui pour des personnes trans est largement en hausse dans le rapport. Donc, c'est-à-dire, là, on voit bien le problème, quoi. Et donc, dans le rapport, vous pourrez lire que les faits de transphobie sont plus nombreux que l'année précédente et sont aussi le deuxième type de LGBTI-phobie révélé par nos pôles d'écoute. Donc, 179 cas spécifiquement transphobes sont à dénoter, avec une représentation toujours importante des mineurs. Donc, vous voyez, c'est un réel problème. Mais aussi, et c'est le milieu scolaire qui semble le plus violent en fait, hein, pour ces personnes globalement, donc je cite toujours le rapport. À l'école, les élèves sont à la merci de la bonne volonté des professeurs et de leur direction. Selon son établissement, un ou une élève transgenre pourra être plus ou moins respecté. Et ce, même si une circulaire existe, hein, mais qu'elle n'est clairement pas appliquée ou intégrée depuis 2021 où elle est sortie, hein, c'est très clair. Et elle est sortie en fin d'année en plus, ce qui était une très mauvaise idée. Plutôt que de le faire en début d'année, en rentrée scolaire, vous savez, c'est. Ça s'appelle le calendrier scolaire, c'est un truc un peu compliqué, mais voilà.
C'est un peu le truc qui régit la vie de tout le monde.
Non, voilà, mais bon. Oui.
Et merde, je voulais dire un truc. Mais en fait, après, effectivement, il y a l'inaction d'une certaine manière, et peut-être même l'action, mais négative
ouais.
De l'équipe d'encadrement. Mais il y a aussi cette haine qu'il peut y avoir entre jeunes,
Bien sûr, alors, mais il ne le nie pas. Hein.
Bah oui, mais je ne dis même pas qu'elle le nie.
En fait, c'est juste que le rapport souligne qu'en théorie, les personnes trans devraient trouver des alliés auprès de l'éducation nationale. Et avoir des gens qui devraient être formés, informés, et venir dire écoute, ce qui t'arrive n'est pas normal, et que ce n'est pas le cas. Et c'est pas un truc qu'on découvre, vous voyez, aujourd'hui. Donc c'est un peu, alors je sais qu'il y a la homophobie, ils essayent toujours d'être un peu je sais pas comment, pas lisse, c'est tempéré. Pas le mot, mais tempéré, parce qu'ils travaillent avec les institutions, oui, ils peuvent pas se permettre de dire ce que moi je vais dire là, mais je pense honnêtement qu'une grande partie des profs s'en fout complètement, des CPE s'en fout complètement, et que c'est pas une circulaire balancée, en, je crois en octobre 2021, où on leur dit ce serait bien de faire attention, qui va suffire. Et le problème, il est là, en fait, concrètement. Il est vraiment concrètement là, en fait.
Mais c'est la formation du personnel aussi, quoi, parce
oui,
que et là, après, bon, moi, je suis pas prof, hein, mais c'est aussi
l'inter... Ou infirmière scolaire,
ou etc., évidemment. Mais c'est aussi, là, encore une fois, hein, les profs ne sont pas tous de gauche ou anarchistes ou je ne sais pas quoi.
Ça, ouais.
Il y a aussi des gens qui effectivement peuvent être dans l'ignorance, hein, et qui donc vont
aussi des réacs.
Minimiser, mais il y a aussi des réactionnaires et il faut arrêter de se leurrer, de croire que...
Et donc ça sert quand même à comprendre pourquoi les personnes jeunes trans sont de plus en plus en souffrance globalement en France, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer de relâchement dans la société comme on l'entend des fois, ou de féminisation de la société comme quelques timbrés peuvent le dire. Non, on est loin de ça, on est plutôt dans une société qui est toujours extrêmement rude, extrêmement hiérarchisée, et où les enfants trans sont souvent les premiers à en prendre plein la gueule. Voilà, et c'est une réalité tangible, et il serait temps de l'entendre, quand même, tout simplement, et de ne pas faire... voilà, puis une fois qu'on l'a entendu, d'agir. Vous voyez, c'est le truc... c'est étape 1, étape 2. Voilà. Il y a une violence aussi qui est non reconnue, hein, et qui elle émerge dans ce rapport, et qui est assez nouvelle, mais elle est nouvelle non pas dans les faits, elle est nouvelle dans le fait que les gens parlent. Vous savez, c'est plutôt dans ce sens-là qu'il faut le voir comme nouveau. En fait, c'est les violences conjugales qui existent au sein des couples LGBT, qui existent comme ailleurs, hein, comme dans d'autres couples, mais qui jusqu'à maintenant n'étaient pas prises vraiment en compte ou pas prises au sérieux. Et du fait du confinement, en fait, elles ont d'ailleurs augmenté, hein, comme d'ailleurs chez les couples hétérosexuels. On sait que la violence domestique a augmenté pendant le confinement. Malheureusement, parce qu'on se retrouve enfermé souvent avec son bourreau ou sa bourreau, et que voilà. En fait, il n'y a aucune structure, hein, justement, qui est dédiée ou formée à recevoir la parole de victimes LGBT, victimes de violences conjugales. Et ça pose un problème parce qu'en fait, ils se retrouvent, par exemple, c'est ce qu'ils disent, ils s'attendent à être écoutés, compris, accompagnés. Et en fait, ils se retrouvent face à un mur, ces personnes, voilà, un peu sourds, incrédules, voire méprisants. Et alors, je reprends l'exemple qui n'est pas dans le rapport, mais qui est dans un article que j'ai lu, où il y avait une femme qui témoignait d'avoir une compagne violente, ce qui peut arriver, malheureusement, et qui est allée donc porter plainte au commissariat, et où le gentil policier lui a dit... Oh, chez les goudous, quand même, ça se saurait si ça existait. Voilà. Donc on a de la lesbophobie dans une phrase et un beau cliché qui sert à rien, mais qui surtout nie la violence qui est en train d'être dénoncée. Donc voilà, c'est exactement ça qui est problématique. Et elle expliquait d'ailleurs, elle, dans l'article, que c'est pour ça qu'en fait elle n'est pas allée plus loin et qu'elle a juste fui. C'est-à-dire qu'elle a pris ses affaires, elle est partie à 900 km.
C'est un peu des angles morts, en fait, ces militances contre les violences conjugales. C'est-à-dire que... Allez, je vais moi-même être un peu grossier ou binaire, mais c'est-à-dire que on a pour habitude d'avoir, c'est les faits, hein, majoritairement des femmes victimes d'hommes, donc femmes victimes, hommes bourreaux, sauf que dans un cas où on est face à des couples homo, donc deux femmes ou deux hommes, là d'un coup ça vient chambouler un peu les idées préconçues, en tout cas, ce qui représente, ça sort en fait de la représentativité majoritaire. Et donc, en fait, d'un coup, on peut avoir un homme qui peut venir en disant, je suis victime en fait de violence de mon compagnon. Donc là, je me dis, il y a peut-être même une part de gens qui vont les regarder en disant, mais tu déconnes en fait.
Ouais, on va lui dire, mais t'es un bonhomme.
T'es un bonhomme. Normalement, vous êtes d'égal à égal. Non, en fait. Et qu'en fait, je trouve que c'est aussi là un peu finalement un truc qu'il faut peut-être qu'on élargisse un peu cette perception des choses, c'est réinterroger ces notions de pouvoir en fait,
au sein du couple.
Et que les violences en fait conjugales, ce sont des notions de pouvoir en fait, de chosification de l'autre, et que le pouvoir et la chosification de l'autre n'est pas limité à une sexualité, genre les hétéros, ou à un genre strictement que les mecs. Même si, encore une fois, majoritairement, on est dans des cas où c'est majoritairement des couples hétérosexuels, où c'est majoritairement les mecs qui frappent les femmes, mais les minorités, elles existent aussi, et on ne peut pas faire comme si elles n'existaient pas et ne pas les voir, parce qu'effectivement, on se retrouve après face à des victimes qui en fait se retrouvent ultra isolées en fait, et leur situation va clairement pas s'améliorer, quoi.
Mais c'est pour faire un parallèle, hein, c'est un peu comme des victimes de violences pédocriminelles qui est dans l'enfance et qui vont porter plainte. Il a fallu des années pour que ce soit entendu aujourd'hui, et même encore aujourd'hui, c'est pas parfait. Mais on voit, ça a été un parcours très long d'associations, de gens, et voilà, il a fallu très longtemps avant qu'on admette que, bah oui, il fallait prendre les plaintes, il fallait les instruire. Voilà. Et en fait, bah, là, le problème, c'est qu'il n'y a pas grand monde qui porte ce message-là, et il va falloir le porter pour que, bah, l'institution se dise, ah bah oui, en fait, ça existe, donc je vais prendre en compte ça, et puis je vais arrêter de rigoler quand quelqu'un arrive et dit, voilà, je suis victime de violence parce que ça existe et c'est comme ça, quoi.
Oui, c'est ça.
Voilà. Donc, en fait, les causes de la haine, hein, c'est pas tellement le rapport, c'est plus moi qui vais parler et qui vais élargir un peu le truc, hein, parce que je vais pas mettre tout ça sur le dos des SOS homophobes, les pauvres. En fait, la haine contre les LGBT, en fait, sont souvent des causes communes avec celles contre les femmes, hein, finalement. C'est le patriarcat qui en est le premier moteur, les normes érigées par les États, évidemment, et puis, bien entendu, les religions, hein, qui sont vectrices de haine. Va falloir un peu arrêter de se mentir sur le fait que le fait religieux ne serait pas un problème. En fait, l'augmentation de violence est assez logique dans le climat actuel. Alors, c'est pas parce qu'elle est logique qu'elle est acceptable. Hein.
Non. Pas du tout. On peut expliquer des choses, voilà, sans les accepter.
C'est juste qu'elle est logique, c'est qu'on pouvait malheureusement s'y attendre. La libération de la parole d'extrême droite et réactionnaire, en fait, elle légitime le passage à l'acte, on le sait. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas longtemps, il y a quelques jours, il y a un gars au Dakota, du Nord, je crois, aux États-Unis, qui a pris un flingue pour aller tuer des Noirs parce qu'il estimait que c'était le grand remplacement aux États-Unis. Voilà, ça s'appelle une libération de parole d'extrême droite, ça donne ça.
Oui, c'est ça. Et que Zemmour, qui avant vomissait sa haine des femmes, etc., ses livres, là, il est passé à une étape supérieure. Il a eu une exposition médiatique encore plus importante bien que sûr. Celle qu'il avait, avec toutes ces thématiques, la féminisation de la société, etc., etc., la hiérarchisation constante de l'humanité à ses yeux. Donc, c'est un... Elle a été démultipliée, quoi.
Donc on savait en fait qu'avec la montée, parce que je vais le dire, hein, je rends pas responsable les médias ou quoi que ce soit dans ce que je suis en train de dire, même si les médias courent après le buzz et qu'à un moment donné ça ouvre aussi des trucs. Il y a aussi des gens qui adhèrent à ces idées-là. Oui. C'est les idées réactionnaires aujourd'hui, elles ont fait au premier tour de la présidentielle chez les votants quasiment 33% des voix. Donc à un moment donné, on va arrêter de se mentir, on va arrêter de se cacher derrière le petit doigt. On a aujourd'hui chez les votants 33% de gens qui propagent la haine et qui le font sciemment, parce que quand vous allez voter, vous savez pour qui vous votez, vous savez ce que vous faites. J'en ai marre d'entendre dire c'est des votes de contestation. Il y avait 12 candidats, donc il y a quand même de quoi contester autrement. Quand on choisit de contester comme ça, je pense qu'on a fait un choix, et donc oui, c'est bien une montée lente, douce, et qu'on a peut-être eu du mal à mesurer là, et qui arrive aujourd'hui à un tiers des votants qui ont voté pour des idées de haine et qui propagent la haine. Mais en fait, c'est pas la seule raison aussi, hein. Il y a aussi le fait que toutes les religions font un retour en force aujourd'hui, et ça, on refuse de le regarder en face, sauf que c'est vrai, et elles le font en fait par un climat de tout se vaut. Hein, qui donne l'impression en fait que les habitudes religieuses sont compréhensibles et normales et acceptables. Donc il faudrait respecter les convictions personnelles des gens. Alors je vais juste rappeler une chose, hein, en France, l'homophobie, c'est pas une la lesbophobie, la biphobie, la transphobie, l'intersexophobie, ce ne sont pas des opinions, ce sont des délits. Voilà, comme le racisme, comme le sexisme, voilà, c'est des délits. C'est-à-dire qu'en fait, quand on commence à se dire c'est une opinion comme une autre, bah en fait non. C'est pas une opinion comme une autre. C'est un peu bizarre à un moment donné d'oublier ça. Mais là, on est en train de nous expliquer que, quelle que soit la religion, hein, d'ailleurs, hein, je le dis, attention, je le redis, c'est quelle que soit la religion, je le redis. On nous dit, bah, c'est normal et il faut être compréhensif, même quand ces idées sont basées sur la haine et le rejet de l'autre. Voilà. Et ben là, moi, ça me pose un problème. Alors après, ben, ça va aller de ne pas porter un maillot contre l'homophobie quand on est joueur de foot parce qu'on a des convictions personnelles, ne pas célébrer des mariages non hétéros parce qu'on a des convictions religieuses personnelles, etc., etc. Tout ça se reposant quand même sur de l'irrationnel pur et simple, hein, quand même, j'ai mal rappelé, et sur un appel à la haine. Donc en fait, à un moment donné, le fait de ne plus dire ça et le fait de refuser de dire ça, parce que c'est quand même une réalité, ben, ça me pose un problème. Alors, je vais le poser clairement. Quand un élu d'extrême droite de la mairie de Ménard, je sais plus où, Béziers, dit qu'en fait, il ne fera pas de mariage de personnes parce qu'il est catholique et que dans la religion catholique, ce n'est pas admis, et que le pape lui a dit que c'était pas bien, et que pour lui, ce serait comme marier deux animaux, et qu'en fait, cette personne, on estime, il y a des gens qui viennent dire, mais il a le droit, c'est ses opinions. Ben, en fait, non. C'est pas qu'il voilà, je veux dire, abandonner, non, c'est pas acceptable. Alors, il a le droit de le penser. Par contre, j'ai le droit, moi, de le détester. J'ai le droit de le combattre. Sauf que d'un seul coup, on dit, ah, mais non, mais est-ce que c'est ses convictions religieuses? Bah, en fait, je m'en fous, en fait. Voilà.
Ben, moi, ça me fait penser à un truc, c'est qu'aujourd'hui, j'ai regardé la télé. Ouh là là, oui, non, attendez, attention, amis gauchistes et amis anarchistes, ne vous inquiétez pas, je me purifierai le jour de ma mort. Donc, je regardais la télé et, en fait, il y avait un truc qui revenait sur les faits de la semaine. OK? Et donc, il y a des images qui sont revenus sur justement l'histoire de ce joueur.
Ah oui, le joueur bah, qui s'appelle Gay d'ailleurs.
Gay, ouais, qui n'a pas voulu jouer parce que bon, il avait une gastro ou je sais pas ce qu'il avait cette année. Et donc, il y a quelqu'un qui lui dit oui, mais bon, après, je pense pas qu'il soit comme ça. Je pense qu'il faut discuter un petit peu. Je pense que. Mais en fait, je me dis, si c'était une journée contre le racisme et que le mec, en fait, était pas venu jouer, on aurait dit quoi, en fait? Bah, il défend le racisme, en fait.
Mais oui,
mais là, en fait, quand c'est de l'homophobie, on arrive à relativiser. Mmh. Et qui plus est, quand on suppose quand même que ce joueur n'y a pas participé sous couvert de croyances religieuses. Et quelles qu'elles soient, j'en ai rien à foutre du nom de son dieu. Mais juste, ça démontre bien ce relativisme quand il s'agit des LGBT, et qui plus est, quand derrière, c'est sous couvert de croyances personnelles et religieuses. Donc si elles sont personnelles, tes croyances, bah tu te les gardes pour toi, ça veut dire que publiquement, ça n'a pas d'incidence. Mais si ça a une incidence sur ton positionnement public, c'est que donc elle est pas si personnelle que ça, ta pensée, et que donc elle est politique.
Et puis il faut faire attention à un prisme qui est en train de s'installer en France, qui serait qu'il y aurait une religion qui serait le moins tolérante que les autres. Alors je rappellerai juste que c'est faux. Je rappellerai juste qu'à la causerie, on vous a déjà parlé des villages communautaires catholiques. Je vous rappellerai qu'on peut vous parler de plein de choses. Vous reprenez toutes nos émissions. Ça va être vous marrer. Enfin, je rigole parce que c'est pas drôle. Il y en a plein. Et puis je vais juste rappeler en fait qu'aujourd'hui l'une des premières forces religieuses en France, c'est le catholicisme, et qu'il a un impact énorme. Et moi qui habite la ville de Lyon, je vois comment le maire de Lyon est en train petit à petit, oui monsieur Doucet, c'est de vous que l'on je parle, est en train petit à petit de céder tranquillement face aux catholiques lyonnais qui sont extrêmement puissants. On est une ville très catholique,
Lyon, oui,
capitale des Gaules, on a quand même le prélat des Gaules, c'est quand même à Lyon, donc c'est quand même un haut lieu de la chrétienté, et là haut lieu du catholicisme, et en fait on voit bien que le maire de Lyon, alliance de gauche et d'extrême gauche, hein, quand même. Hein,
ah,
voilà.
Bah, si la gauche est soumise à racine, c'est pas mal.
Hein. Et ben, en fait, est en train de céder face aux traditionnalistes, face à la montée au flambeau qui devrait être mieux encadrée, mieux visible pour le 8 décembre. Alors que le 8 décembre, ça, je vous le rappelle, c'est plus complexe que ce qu'on croit, et ça n'est pas lié aux catholiques uniquement. À des choses comme ça, à des associations qui demandent à avoir le droit d'enseigner des bases rigoristes catholiques et à qui on laisse des espaces. Et ben, je suis désolé, mais à un moment donné, c'est bien un retour en force des religieux. Donc, voilà. Il y a pas une, il y a toutes les religions en merde.
Et d'ailleurs, enfin, c'est pas que ça, parce que j'ai cru comprendre qu'il y a quelques années, il y a un petit moment, à Lyon se passait le carnaval du blasphème.
Oui.
Blasphème.
Bien sûr.
Et en fait, ça, c'est pas la mairie. C'est toute une mouvance, on va dire, d'extrême gauche et anarchiste,
oui,
qui ont lâché le truc aussi.
Ah ouais, parce qu'on s'éclatait bien.
Qu'une mairie, en fait, elle fasse du clientélisme. De toute façon, ils sont pour être élus. Donc,
non, mais c'est juste que c'est un marqueur.
C'est un marqueur.
Je m'attends pas à autre chose de la part politique.
Je pense que le marqueur, il l'est plus quand l'extrême gauche et les anars lâchent le combat anticlérical, matérialiste, au profit d'aller tâter du religieux et être gentil avec eux.
Je me suis fait engueuler, alors je vais continuer.
Non, du tout. C'est un caral d'ici. Bon, bah alors je me tais.
Il y a d'ailleurs, je reviens sur ce que je disais, je vais passer là-dessus. Il y a un facteur aussi prénom. En fait, c'est les réseaux sociaux qui sont devenus en fait un amplificateur de haine. Le rapport souligne que les plateformes comme Twitter, Facebook et TikTok rassemblent à elles seules 45% des cas de haine en ligne. Mais alors attention, vecteur, ça ne veut pas dire créateur, parce que là, il y a une petite erreur qui est souvent faite. Et d'ailleurs, je cite le rapport. Au fond, entre la haine en vrai, je mets des guillemets ou en vrai, et la haine en ligne, il s'agit souvent en fait que d'un continuum de souffrance dont la forme change, mais dans le fond, les bourreaux sont les mêmes. C'est-à-dire que c'est la même personne qui va venir vous voir dans la cour d'école et vous taper dessus, qui va après vous harceler en ligne.
À partir du moment où tu te mets devant ton ordinateur, un esprit maléfique et homophobe, raciste ou tout ce que tu voudras, s'empare de toi. Non, en fait, hein, je veux dire, ce que tu es capable d'écrire, si tu es capable d'écrire de la haine sur les réseaux sociaux, c'est que tu le penses, en fait.
Oui.
Hein,
voilà, mais c'est ça qui, moi, m'intéressait, c'était de souligner justement le fait que j'entends trop souvent, et j'entends vraiment ça dans une façon de facilité, de dire c'est la faute des réseaux sociaux. Non, en fait, on est bien dans une société qui est moins tolérante qu'on ne le pense et qu'on pouvait le penser à une époque, alors que, ben, en fait, on a tendance à penser que les réseaux sociaux sont le problème, alors qu'en fait, ils ne sont que le reflet de la société amplifié. Et donc, oui, ça amplifie, je ne dis pas le contraire, sauf qu'on ne peut pas amplifier ce qui n'existe pas. Donc, par définition, si c'est amplifié, c'est que ça existe. Et c'est bien la société qui est problématique, et c'est bien notre société. Et cela, en fait, ben, ça dévie la lutte hein, à mener, du coup, sur un mauvais objectif, parce qu'on va focaliser sur les réseaux sociaux, au lieu de réfléchir à, mais au fait, comment ça arrive là, en fait, vous voyez ce que je veux dire ? Et c'est ça le problème. Y a un exemple que j'avais lu dans le même article que la personne qui était partie à 900 km, et elle expliquait en fait que elle avait coupé tous ses réseaux sociaux, qu'elle avait changé de pseudo, tout ça, machin et tout, et qu'en fait elle était aujourd'hui dans un environnement plutôt safe, c'était son expression, et que depuis elle n'avait plus jamais reçu de messages de haine. Et en réalité, les messages de haine, ça venait de son ancienne compagne qui en fait avait un groupe d'amis qu'elle avait engrainé pour aller s'en prendre à elle. Mais en fait, ce groupe d'amis et cette ancienne compagne s'en prenaient déjà à elle dans la vie, en dehors des réseaux. Et vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que c'était un amplificateur. Et donc, le problème, c'était plus ça, le groupe, oui.
Non, j'ai pas compris. Cette compagne, donc c'est-à-dire c'est une meuf qui se faisait.
C'est quelqu'un qui était victime, ce que je disais tout à l'heure, qui était victime de.
Ah oui, de violence.
De violence.
Ah ok, pardon,
voilà,
ok, d'accord.
Et qui, en fait, quand elle est partie, n'avait pas changé de réseaux sociaux, et j'ai oublié cette partie-là. Et donc, elle s'est retrouvée à être harcelée en ligne par son ex-compagne et par des amis à elle, en fait, on va dire ça, ce qui était en fait un effet de meute, hein, comme on dit. Mais en fait, il lui a suffi de changer de pseudo, machin et tout, de faire un peu attention à qui elle, je suppose, à qui elle reprenait dans ses réseaux, évidemment. Et en fait, elle disait, ça a disparu. Parce que ce n'est que la continuité, hein, comme il le rapporte, de ce qui existe dans le réel. Enfin, dans le réel, en dehors des réseaux. Les réseaux, c'est du réel. Il faut arrêter aussi de dire que ce n'est pas du réel, c'est du réel, les réseaux. C'est physique, vous êtes derrière. Voilà. Donc, y a un moment donné, voilà, c'est bien focalisé sur la société et pas focalisé sur les moyens, les outils. Et la période, en fait, qu'on traverse n'est pas simple. Et nous allons certes devoir lutter contre les idées réactionnaires, mais aussi reprendre, en fait, les luttes. Hein. Donc, aussi bien les luttes contre l'État, hein, pour qui nous reconnaissent, les luttes anticléricales, frontales, pour remettre les religions à leur place. Et on ne va pas non plus se mentir, l'augmentation des violences contre les personnes LGBT n'est jamais déliée du reste. Donc, il faut mélanger toutes les luttes, parce que c'est que dans une société où tout va mieux, que tout le monde va mieux.
C'est tout à fait ça. Eh bien, pardon. Oui, ça fait Clara.
Ah oui, j'ai pas fait d'introduction.
J'avance.
Et toi, Jean-Yves, tu voulais parler d'un truc.
Dans la suite de ton sujet, effectivement, je voulais dire quelques petits mots sur un reportage que je vous invite à regarder. Et en fait, ce doc, il s'appelle Homosexualité, les derniers condamnés. Et il a été diffusé sur France 5 le 15 mai, donc la semaine dernière. Et il est encore évidemment visible en replay. Alors, vous l'aurez deviné, hein, ce doc.
Et gratuitement.
Oui, évidemment. Ce doc revient sur le passé d'homo qui ont été arrêtés à l'époque où l'homosexualité était encore interdite en France. Petit rappel, après l'abolition du crime de sodomie en 1791, c'est le régime de Vichy qui réinstaure la criminalisation de l'homosexualité à partir du mois d'août en 1942 par modification de l'article 334 du code pénal qui prévoit une majorité sexuelle plus élevée, 21 ans, concernant les rapports « contre nature », entre guillemets évidemment, c'est-à-dire homosexuel, vous l'aurez compris. Et c'est sur cette nouvelle base juridique, en fait, hein, que la criminalisation de l'homosexualité s'établit en France sur les décennies suivantes. En effet, hein, faut pas oublier que cette loi, elle a été conservée lors de la libération. Faut donc croire que la libération était surtout celle des hétéros. Jusqu'en donc 1982, date à laquelle cette loi a été abrogée. Et on estime qu'entre la fin de la Seconde Guerre mondiale et l'abrogation donc en 82 du délit d'homosexualité, 10 000 peines ont été prononcées en France. Jugement correctionnel, amende et parfois peine d'emprisonnement. Les condamnations frappaient essentiellement des hommes. Ce sont donc les derniers témoins de cette époque qui prennent la parole dans ce documentaire et nous racontent 4 décennies de vie clandestine jusqu'à la tragédie du sida. On découvre comment la police agissait dans les descentes de flics. Par exemple, ils rentraient dans les saunas ou dans les boîtes à cul et ils se retrouvaient à poil et puis d'un coup ils sortaient leur carte de flic. C'est quand même des sacrées techniques d'infiltration, hein, on va pas se mentir. On découvre aussi le climat pour les homos à l'époque dans la société où ils étaient majoritairement considérés à minima comme des malades qu'il fallait soigner, et aussi évidemment déjà à l'époque rejetés de certaines familles. On voit aussi comment certains lieux existaient, que ce soit des lieux fermés, on va dire bars, etc., mais aussi les toujours et encore célèbres lieux de drague qui permettent encore aujourd'hui, je tiens vraiment à le dire, et parce que ça tient aussi à ce que tu disais sur l'homophobie, à certaines personnes, en fait, ça permet encore à certaines personnes, ces lieux de drague, qu'on pourrait dire planqués, mais il n'y a aucun de péjoratif hein, quand je dis ça, de faire encore des rencontres et d'assouvir leur désir de sexe entre mecs. J'en profite vite fait quand même, c'est justement... prévenir les gens qui fréquentent ces lieux, faites attention sans devenir paranoïaque, mais il y a régulièrement des agressions qui ont lieu sur ces lieux-là par bah, justement des homophobes qui détestent tellement les homos qu'ils vont les chasser, n'est-ce pas ? Donc, et ces 5 témoins hein, du reportage, je reviens à ce reportage, de nous parler aussi de comment les homos se sont organisés, hein, comment ils ont fait entendre leur voix, comment la résistance elle a pris forme. Et le reportage se termine, comme je vous le disais, sur le drame du sida, avec justement l'évocation de ce que ça a été pour les 4 témoins de cette hécatombe qui a été le sida, quoi. Alors, donc je conseille vivement ce doc parce que, à l'heure aujourd'hui, des groupuscules d'éthers vénères qui aiment à jouer aux plus radicaux que moi tu meurs, ce qui sous-entend quand même souvent hein, que, bah, avant, c'était des mous du genou, hein, qu'ils n'avaient pas fait grand-chose. J'en suis pas persuadé quand même, et j'en suis même sûr que c'était pas le cas. Enfin, ils ont affronté des choses absolument terribles. Et il me semble plus qu'utile aujourd'hui de se replonger justement dans ce passé. Non pas encore une fois pour se satisfaire de la situation actuelle, comme tu viens de le rappeler, hein, où encore trop de gens sont niés, violentés, violés, si ce n'est assassinés, simplement parce que LGBTI, mais simplement pour prendre un pas de recul qui parfois peut aider à gagner un peu en humilité et sortir un peu des donneurs de leçons qui ont 30 piges et qui vont faire
parfois moins
qui donnent la leçon aux anciens parce que je sais pas quoi. Et juste, je vous rassure, si toi c'était technique un peu de croire qu'aujourd'hui t'es le plus fort de tous et que dans le passé c'était tous des mous, je te rassure, tu peux gagner en humilité sans perdre en radicalité. Essaye, tu verras, c'est possible. Donc je rappelle, hein, homosexualité, les derniers condamnés, c'est en replay, c'est sur France 5, et j'invite tout le monde à regarder ça. Vous soyez homo, hétéro, on s'en fout en fait, ça fait partie aussi de notre histoire, comme on peut regarder des documentaires sur l'histoire de l'humanité, quoi. Ça fait partie de nous collectivement. Voilà, je me tais après ça.
Et moi, je vais juste te dire, avant qu'on lance la musique, allez aussi sur là où il y a des vidéos, YouTube ou Dailymotion, vous tapez têtu campagne, et vous regardez le petit film de 2 minutes 30 qui a été fait sur l'homophobie ordinaire et les petites phrases qu'on en a marre d'entendre et que vous pouvez changer votre vocabulaire, c'est pas très dur. Tentez le coup.
On passe à la zic. Like a true samurai. Don't wanna lie, I make the most out of life. Wanna fly, pray like a butterfly. Don't wanna die, without passing up my life. Wanna fly, like a true samurai. Billy's burning, ha! Billy's burning. Ha!
C'est toujours la causerie, 22h le dimanche. Et là, tu viens d'écouter Alvan avec Pili Pili. Et Alvan, ben, vous en avez beaucoup entendu parler parce qu'il était à l'Eurovision avec, avec Alvan et j'ai perdu le nom de l'autre groupe. Aes, voilà. Et c'est eux qui ont représenté la France à l'Eurovision. Et avant de faire ça, il est avant tout DJ. Et il fait des titres un petit peu péchus. Et il aime bien le Pili Pili parce que ça burne.
C'est quoi ?
Non, parce que c'était un jeu de mots. C'est burning. Voilà.
D'accord.
Et il dit dans des interviews ça. C'est juste pour rire.
Ok, voilà. Là, c'est très drôle.
Oui. Je savais pas si je la ferais ou pas. Je l'ai faite quand même.
La prochaine fois, tu sauras que.
Non, mais je lui laisse. C'était sa blague. Hein. Voilà. Et donc, Jean-Yves, toi, tu voulais nous parler d'un eh ben, d'un mec qui est vachement sympa qui s'appelle Jésus.
Ouais, tout à fait. Effectivement.
C'est l'introduction.
Je vous avais causé hein, dans des deux premiers tomes de la BD Jésus Sixte, dénommé La Genèse et le Prophète. Prophète en deux mots, hein. Prophète, la fête, ouh la fête. Bref, c'était dans la causerie 327 du 29 décembre 2019, parce qu'on aimait bien terminer les années. Eh bien, ce soir, je vous présente l'ultime tome, le troisième et dernier, Jésus Sixte, Feet Under.
Non, oh, soir, non, non. Alors, ah, non, mais, alors là, c'est la soirée des mauvaises blagues.
Ouais, mais eux, c'est clairement assumé sur toutes les sur la centaine de pages. Et c'est toujours hein, aux éditions Lapin. Et c'est sorti le 13 mai 2022. Juste les éditions Lapin. C'est une petite maison d'édition qui est à Villeurbanne. Et Clara, ça va faire rire le petit lapin.
Non, c'est ta manière de prononcer lapin.
Lapin.
Oui, lapin.
Lapin. Alors, hop, je continue. Donc, au scénario, hein, on trouve toujours Trab, toujours né en 1988.
Hein, ça n'a pas changé.
Ça n'a pas changé, bizarrement. Auteur de nouvelles hein, avant de rapidement passer au strip d'humour noir dont il est fan, tout comme du trash et potache. Ça se tient. Donc, scénariste hein, de Family Freaks, première BD éditée en 2015, et aussi de Le petit livre rose d'un serial killer en 2019 et Le Dalida noir en 2020, toujours aux éditions Lapin. Et je pense que je vous en parlerai voilà, prochainement en parlera, de ces ouais. deux derniers ouvrages. Au dessin, pour ce dernier tome, c'est Guillaume Boutanox qui remplace Fabs, ce qui a valu un torrent de merde à ces deux personnes-là, parce qu'ils avaient changé de dessinateur. Et c'est...
Mais c'est idiot.
Ah, mais c'est
ça arrive dans la BD, c'est pas grave.
C'est complètement fou.
Mais pourquoi les gens s'énervent pour des trucs qui sont pas graves?
Alors bon, ils ont le droit à une bonne dédicace à la fin du livre, avec des bons gros doigts d'honneur, mais comme oui, il
non,
se
mais,
doit.
Je trouve qu'on... Alors pardon, hein, mais on vit dans une drôle de société où un truc qui arrive mais hyper fréquemment dans la BD, c'est-à-dire bah, vous pouvez, des fois vous pouvez changer et les gens ils s'énervent pour des trucs mais c'est rien de grave.
Parce que les gens pensent que tout leur appartient. Mais non, en fait.
On se détend.
Rappelez-vous que vous ne vous appartenez que vous-même et rien d'autre. Ah, oui. Donc, Saint Boutanox, hein, parce que quand même ils sont présentés comme ça, hein, Saint Trab et Saint Boutanox. Donc Boutanox, hein, il est né en 82, il vit à Paris après une licence d'histoire. Tu te demandes ce qu'il allait foutre en histoire. Il a travaillé plusieurs années dans l'animation sociale, puis dans les bibliothèques scolaires de la mairie, enfin de la ville de Paris.
On connaît des profs qui font des BD aussi. Hein.
Oui, c'est vrai.
Enfin, je dis ça, je dis rien.
Oui, c'est vrai. C'est vrai. Oui, mais qui reste dans un domaine historique. Là, on est vraiment dans quelque chose.
Toujours.
En 2010, hein, Guillaume Boutanox, il crée un blog consacré à la BD, Les Réflexions Inutiles, qui est toujours en ligne, vous pouvez vous promener dessus, pour se remettre à l'illustration. Il rejoint aussi des collectifs tels que 30 jours de BD, RAV Mag, Kazoom, Bulle d'encre ou le festival Prototype. Et il participe à des projets tels que le projet 17 mai. On en avait parlé, c'était un projet autour des. Bah, justement, pour dénoncer la haine LGBT.
C'était SOS Homophobie qui avait fait faire une BD que je crois que j'avais présentée dans la causerie et je me rappelle très très bien de ce qu'il avait fait. C'est vachement bien.
Le 23h de la BD encore ou le French Inktober. Alors, diffusant ses productions dans des fanzines ou en auto-édition, Guillaume Boutanox publie en mars 2014 ses deux premiers albums, Vlad et aussi Le Manchot. Et le dernier en date, en dehors de Sixte, hein, c'est Artbook by Boutanox, chez DBDLM Édition. Et en juin paraîtra Sherlock Holmes Ténèbres sur Londres chez Macaca Édition, une BD dont vous êtes le héros.
Ah, c'est cool ça.
Ouais. Ouais. Et c'est pas la première qu'il fait, hein. Je crois que c'est un nouveau volume de Sherlock Holmes, mais c'est, oui, il en a fait plus d'une, je crois.
Il faut un dé et tout, comme dans les livres.
Ah, je sais plus, là, je
ah, tu passes d'une truc
oui, à mais là, je pourrais pas te dire. Allez, alors, j'ai assez parlé de tout parce ça, que, je vais plutôt vous parler de la BD.
Juste quand même rappeler, Jésus, c'est vraiment Jésus?
Ah oui, Jésus, c'est vraiment Jésus, oui, bien évidemment.
Comment toi, tu nous parles de Jésus.
Comment tu peux douter de ça? je vais vous parler de Jésus Six Feet Under. Donc, pour rappel, Six est un petit garçon de 6 ans, issu d'une famille bien catho, bien comme il faut, hein, bien pratiquante et très lisse, du moins en apparence. Et un jour, Six voit débarquer Jésus dans sa vie. Et il faut savoir que Six est le seul qui voit Jésus. Dans ce dernier tome, on va faire pas mal de bonds dans le temps. On avait quitté Sixte enfant qui devenait pape. Et là, en fait, on le retrouve ado, squattant son canapé et sa console avec de l'acné et les hormones qu'il titille. Et il pourra évidemment toujours compter sur son pote Jésus pour l'aider dans les étapes de la vie ou pas. Parce que, évidemment, Jésus est toujours égal à lui-même, toujours aussi alcoolique, toujours lourd, toujours bof et taquin, mais pas que. Je vous cite 2-3 trucs, mais il y a plus de 100 pages, donc je vous... Comment on dit ça? Je vous...
Divulgâche.
Je vous divulgâche pas.
Divulgâche pas trop. Spoil, pas trop.
Non, divulgâche, c'est mieux. Alors, ça ira.
Tu veux vraiment ta place sur France Culture, toi?
Pas le dire trop fort. J'ai quelques liens à Canu qui pourront m'aider. Ça ira, des capotes distribuées par l'Église. Percer les capotes, évidemment, pour rester en adéquation avec la pensée de l'Église. À Sixte, qui veut s'éloigner des enseignements de Jésus en voulant essayer d'autres religions pour finalement vouloir entrer dans les ordres et déclencher Vatican III. Tout un programme. On fera ensuite un bond de 25 ans pour retrouver Sixte, curé, marié, papa d'un enfant avec d'autres aventures, dont la transformation de Sixte en messie pour du mouvement Hostie, qui a été créé par une certaine Madame Bounty. Si vous remettez les lettres dans l'ordre, ça va vous rappeler quelqu'un qu'on a vu pas mal dans les rues manifester contre les LGBT. Et ce mouvement lui demandera plein de choses. Enfin bon, c'est un mouvement totalitaire. Je vais pas tout dire. Puis, un dernier saut dans le temps où l'on retrouvera Sixte, vieillard, à 90 ans, et toujours déterminé à vouloir détruire les religions jusqu'à sa mort, qui ne saurait tarder. Le duo, pour moi, il fonctionne toujours aussi bien, même si les dessins ont changé, avec des vannes, des gags toujours...
Quoi
aussi...
Ils ont changé le dessinateur.
Blasphème.
Des gars à côté comme ça, mais c'est ça qui est ridicule. Ils ont blasphémé, ils ont changé le dessinateur.
Donc, avec des vannes, des gags toujours aussi limites, non politiquement correct. Et moi, justement, c'est ce que j'aime dans ce genre d'ouvrage.
C'est l'humour noir.
Mais clairement.
J'avais lu les... Alors, j'ai pas lu celui-là encore, mais j'avais lu les deux premiers. Ouais, alors moi j'adore. Il y a des gens qui vont détester, mais l'humour noir ça fait un bien fou et il faut vraiment s'y mettre de temps en temps, ça fait du bien.
Donc ils abordent toujours des sujets qui touchent de près ou de loin les religions, mais pas que. Et comme les deux premiers tomes, ça se termine toujours sur des planches en extra, certaines qui sont réalisées par Boutanox et aussi d'autres dessinateurs. Donc c'est assez rigolo parce qu'il y a des mélanges de styles, etc. Enfin bon, c'est...
Il y a un schisme, quoi.
C'est
la Bible et il y a des trucs à côté.
Et puis des petits produits dérivés, comme une boîte d'allumettes en disant « Venez, on va allumer Notre-Dame de Paris ». Enfin bon, c'est absolument magnifique. Moi, j'adore. Et donc, et comme je le disais en 2019, pour rejoindre ce que tu disais, Fab, si vous n'aimez pas rire des religions, si vous aimez l'humour propre sur lui... Je vous déconseille cette BD. Ça vous serez tranquille, l'esprit tranquille, rien ne viendra perturber votre petit quotidien, train-train quotidien, et c'est très bien comme ça. Donc, je rappelle, c'est le dernier tome de Jésus Sixte, et c'est donc Jésus Sixte Feet Under de Trab et Boutanox aux éditions Lapin. Voilà, je crois que j'ai tout dit.
J'ai tout dit pour les éditions.
Je vous invite.
Ce sont des éditions qui s'appellent donc les éditions
Lapin.
C'est ça, voilà.
Et elles sont de Villeurbanne.
Ils vont être contents que tu les appelles comme ça tout le temps.
Bah, Lapin. Comment tu veux que je dise autrement?
Bah, un Lapin.
Mais ça ne se dit pas, en fait. On dit bien lapin. Bon, allez, on arrête parce que les auditeurs et auditrices doivent se dire ils nous font chier.
Non, mais moi, ceci dit, avant que tu... Je voulais juste... Ah, attends, j'ai perdu
des phrases de belle bourrée.
Attends.
J'ai pas pu dire que je suis HF. Il fait chaud, c'est horrible.
Il fait très chaud dans les studios, on peut quand même le dire.
Ouais, donc oui, je voulais dire... Il est très important pour moi que justement la BD, le cinéma, enfin toutes les formes d'art continuent à avoir des choses qui dérangent. Et alors je le dis parce que c'est quelque chose que j'entends de plus en plus des gens qui disent ouais mais bon ça blesse des gens, ça... Oui, alors oui, mais toujours. Je veux dire, n'importe quoi que vous fassiez en art va pouvoir potentiellement blesser quelqu'un. Oui. Et il est important de défendre le droit absolu des artistes d'être de mauvais goût. Pardon de le dire, mais c'est-à-dire que le mauvais goût, ça existe, et c'est, je dis ça avec beaucoup de tendresse dans la notion de mauvais goût, j'adore le mauvais goût, mais c'est-à-dire qu'à un moment donné, bah ouais, des fois t'as des films qui vont choquer, parce qu'ils vont prendre un sujet qui soit important pour d'autres personnes, bah c'est comme ça, et bah c'est pareil pour la BD, c'est pareil pour tout, et je trouve justement que un des combats à mener aujourd'hui, c'est le droit absolu à pouvoir se foutre de la gueule de toutes les institutions qui sont mises en place, que ce soit l'État, la religion, l'école, enfin tous ces trucs qui sont monolithiques dans la société et qui finalement ont un pouvoir démesuré sur les êtres humains, et ben ça fait un bien fou d'avoir des gens qui vont gratouiller là où ça fait mal et qui vont aller un petit peu se foutre de la gueule des puissants. C'est le rôle absolu de l'art depuis des millénaires. Si on enlève ça à l'art, on tue l'art. Voilà.
Voilà. Eh bien, ça c'est dit. Donc, je parlais bien de Jésus Six Feet Under aux éditions Lapin. Et donc, on va passer à la musique sans plus tarder avec une petite musique bien sympathique sortie de derrière les fagots.
Vous avez trois nouveaux messages.
Mon pote, au niveau informatique, je suis maître Jedi, ok ? Ceinture noire en piratage.
Moi, je mets que des balles dans ton baladeur, baladeur. Je mets que des balles dans ton baladeur, baladeur. Moi, je mets que des balles dans ton baladeur, baladeur, baladeur. Que des balles dans ton baladeur. Moi, je mets que des balles dans ton baladeur, baladeur. Je mets que des balles dans ton baladeur, baladeur. Moi, je mets que des balles dans ton baladeur, baladeur, baladeur.
Y'en a qui se croient dans Dallas, glorifiant la loi du plus fort. Y'en a qui ont jamais tort, qui se pavanent et font les fiers. Y'en a des pathétiques, de drôles, de volatiles, sûrs de détenir les clés d'une vérité trop volatile. Y'en a qui critiquent la télé, mais sont rivés dessus. Y'en a qui sont intoxiqués alors qu'ils se pensent au-dessus de ça. Y'en a qui pètent un cap, qui cherchent des boucs émissaires, qui sont rendus responsables de leur propre misère.
Moi je mets que des balles dans ton baladeur, baladeur.
Je mets que des balles
dans ton baladeur, baladeur.
Moi je mets que des balles
dans ton baladeur, baladeur.
Moi je mets que des balles
dans ton baladeur, baladeur.
Je mets que des balles
dans ton baladeur, baladeur.
Moi je mets que des balles
dans ton baladeur, baladeur, baladeur. Que des balles dans ton baladeur.
Y'en a qui se la jouent viril, mais leur connerie est sidérale. Ça pédale dans la smoule, dans l'aigreur intersidérale. Y'en a qui rabaissent les meufs, veulent les voir dans la cuisine. Ça rassure leur écho quand ils les voient courber les chines. Y'a des gens super paumés, y'en a qui suivent quelques gourous, qui t'expliquent la vie alors qu'eux-mêmes se sont bourrés. Y'en a qui disent
c'était trop gentil, maintenant fini de se faire avoir.
Mais c'est en disant ça qu'ils rejoignent le troupeau des bâtards.
Moi je mets que des balles dans ton baladeur, baladeur.
Je mets que des balles
dans ton baladeur, baladeur.
Moi je mets que des balles
dans ton baladeur, baladeur, baladeur.
Moi je mets que des balles
dans ton baladeur, baladeur.
Je mets que des balles
dans ton baladeur, baladeur.
Moi je mets que des balles
dans ton baladeur, baladeur, baladeur. Que des balles dans ton baladeur, 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 baladeur,
Et vous êtes toujours à l'écoute de Radio Canu et plus précisément La Causerie. Ah, t'as rejoint le troupeau des moutons. Eh bien, on vient de s'écouter un tout nouveau titre, le tout nouveau titre de la secte de Didactique, aka Stupéflip. Et le titre, c'est dans ton baladeur et c'est annonce un album pour le 16 septembre. Si je ne me trompe pas, petit lapin.
Et mais, bah, lapin.
Lapin. Et oui, je suis dans une thématique. Bon, seuls les fans de Stupéflip comprendront, mais ouais. Les lapins sont au nombre de 800. Non, je déconne. Bref, allez, on se tait, je me tais, et on passe rapidement aux brèves de la semaine prochaine.
Alors, ça commence avec lundi, la permanence de la brigade des fauchés. Quand on est pauvre, on dépend de tout un tas d'administrations avec chacune leur logique propre, et faire valoir nos droits, c'est parfois un vrai parcours du combattant. On prétend pas mieux savoir, mais on se dit que si on met en commun nos expériences et que l'on prend le temps de réfléchir ensemble, il y a moyen qu'on arrive à un peu mieux se défendre contre la jungle administrative. Alors ça se passe à la Lutine. La Lutine, c'est 91 rue Montesquieu dans le 7e, et c'est tous les 2e et 4e lundis du mois. Peut-être qu'on annoncera la prochaine, mais on va pas le faire tous les 2e et 4e lundis du mois, mais c'est la brigade des fauchés à la Lutine. Donc voilà, et c'est à partir de 18h.
Ok, on passe à mardi 24 mai, c'est à la librairie La Griffe que ça se passe, la librairie La Griffe, je crois que c'est au 5 rue Sébastien Griffe, dans le 7e arrondissement, et donc c'est une invitation à une lecture collective, pardon, du livre Afrique anarchiste, au pluriel. C'est mardi donc 24 mai à 18h à la librairie La Griffe, et l'idée c'est ainsi, nous proposons un cycle d'arpentage, lecture collective, sur des livres d'histoire. Deuxième session, Afrique anarchiste de Guillaume Rey, ou comment élargir notre vision des organisations politiques et des luttes sociales. En plus, je trouve que c'est intéressant, justement, l'anarchisme, c'est pas un truc de blanc européen ou je ne sais quoi. Mm-hmm. Non, l'anarchisme appartient à l'humanité. Donc, mardi 24 mai, 18h, à la librairie, librairie La Griffe, pardon.
Et là, il va falloir que tu choisisses. Parce que mardi 24 mai, il y a aussi l'effet Mathilda qui présente Loubia Arma de Marie-Manne. Et c'est un film, donc je vais, voilà, pendant que l'armée française tire sur l'OAS, les enfants pillent l'armée française et ses provisions, et même d'un prisonnier de guerre condamné à manger un plat de haricots. Mais la guerre rattrape l'aventure et ensanglante les haricots. Voilà, c'est le pitch du film. Et donc c'est à 18h à l'Amicale du Futur, 31 rue Sébastien Griffe, dans le 7e. Et donc c'est avec le collectif que j'ai cité, dont j'ai effet Mathilda. Voilà.
Okay, très bien. Eh bien, on passe à la news suivante. C'est le samedi 28 mai. Si tu as écouté Canu juste avant la causerie, Clara a passé le jingle qui présente justement cette fête. C'est la fête des Canu Info, qui aura donc lieu sur la place Satenay, samedi 28 mai. Donc l'idée, c'est que vous veniez rencontrer les animateurs et animatrices des Canu Info. Il n'y aura pas tout Radio Canu. Ce n'est qu'une fête des Canu Info qui ont lieu toute la semaine de 19h à 20h avec des nouvelles équipes chaque jour, enfin d'autres équipes chaque jour. Donc c'est 28 mai, place Satenay. J'ai pas l'heure. Attends, pardon, qu'est-ce que je raconte là ? Si, pardon, de 14h à 22h. Là, vous allez en bouffer de l'information. Et donc, c'est aussi rencontre de collectifs, de militants, de militantes, de syndicalistes, etc. etc.
Voilà. Tout ce que vous retrouvez dans les Canu Info.
C'est tout à fait ça.
Du lundi au vendredi à 19h sur Radio Canu.
C'est tout à fait ça.
Ouais, et sinon, dimanche, parce que oui, il y a aussi un dimanche, c'est le 29 mai, c'est un dimanche prochain, auront lieu des événements pour protester contre les violences pénitentiaires, les mitards et les morts en détention. Donc le rendez-vous à Lyon, il est donné place Bellecour à partir de 14h, mais il y a aussi d'autres événements partout en France. Il y a déjà des événements annoncés à Rennes, à Paris. Voilà. Donc c'est l'association IDIR, Espoir et Solidarité qui a été créée suite au décès de IDIR au mitard, quartier disciplinaire de la prison de Lyon-Corban en septembre 2020, qui organise ce rassemblement, enfin aidé aussi ou appuyé par d'autres collectifs, d'autres groupes politiques, voilà, normal. Mais en tout cas, c'est eux qui sont à l'initiative. Et du coup, dans le cadre de cette mobilisation, il y aura aussi lieu une manifestation à Nantes le 28 mai. Et pourquoi Nantes ? Bah parce qu'en fait, c'est à Nantes que les dernières violences dans une prison ont eu lieu. Et donc, c'est l'idée aussi d'aller, voilà, mais bon, pas tous aller à Nantes, donc, mais vous pouvez aller à Lyon à partir de 14h dimanche 29.
Où ça ?
Bellecour. Okay, place Bellecour. Ouais, voilà.
Ok. Et ben, l'autre rendez-vous, c'est dimanche prochain, 22h, 23h, et un peu quelques petites brouettes.
On n'est jamais au tard.
C'est la causerie, toujours sur Radio Canu, au 102 de la bande FM, et sur radiocanu.org aussi. Voilà. Et puis, ben, on va se quitter en musique. C'est Fab qui annonce.
Ouais, parce qu'en fait, ben, il y a Vangelis qui a eu la très mauvaise idée de mourir. Ben, ça, c'est un truc quand même.
Chaque fin d'émission, c'est une rubrique nécro.
Ouais, mais c'est pas grave.
Ouais, c'est ça.
Mais oui, mais c'est en n'oubliant pas les gens. Ben, bref. Je vais sortir d'une phrase complètement débile. Non, mais en tout cas, moi, j'aimais beaucoup Vangelis, aussi bien dans les Aphrodite Child, quand il faisait des choses tout seul, aussi comme en
Ah, mais il était avec...
D'émission Chose, bien sûr. Mais non, Aphrodite Child, pas les Destiny Child, c'est pas les mêmes. Mais qu'il est nul.
Elle est bonne, ma blague, c'est clair, elle rit.
Mais qu'il est nul. Elle est fatiguée, c'est pour ça qu'elle rit.
Oui, moi aussi.
Bref, donc il était dans les Aphrodite Child, mais il était aussi un très grand compositeur de musique de film. J'ai fait une spéciale Hans Zimmer la semaine dernière sur la musique de film. Je ferai sûrement un jour une spéciale Vangelis, Blade Runner et plein d'autres films qui ont marqué. Voilà. Donc du coup, là j'avais envie de lui rendre hommage. Alors, je pense toute la causerie, parce que même si vous rigolez, c'était quand même pas non plus un mec qui était pas si. Ah, arrête, tu m'énerves. Il fait des signes, c'est pas gentil. Et donc,
j'ai rien fait.
Un peu de respect pour les morts. Non, je plaisante, c'est une blague. Donc, du coup, on va se quitter avec Polestar, et qui est un titre que tout le monde connaît, parce que généralement, si vous avez un petit peu vécu comme moi dans les années 80-90, vous l'avez entendu partout. Voilà.
Bah, donc, tous ceux qui sont nés après ne le connaissent pas forcément.
Ils vont le découvrir soir. Okay, et du coup, après cette causerie, ils vont dire merci, la causerie, de nous avoir fait découvrir cet immense artiste qui est Vangelis. Ouais,
il est fatigué. Et son ego prend le dessus.
C'est ça.
On rend l'antenne.
On vous donne rendez-vous dimanche prochain, évidemment, 22h-23h sur l'antenne de Radio Canu. Et puis, d'ici là, bon courage à toutes et à tous.
Ouais, et vraiment.
Et à bientôt. Des bisous. Ciao.
Salut.
Ciao.